Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin pour ces instants que tu nous offres. Béni sois-tu, éternel Dieu, toi qui as permis que ce matin nous ayons cette opportunité, cette occasion de t'écouter. Nous implorons la proximité, la présence de ton Esprit Saint qui nous communique ta volonté. Et notre prière, mon Dieu, mon roi, est que l'humain disparaisse et que ton Esprit se révèle. Béni sois-tu, éternel, car tu nous as visités. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout en état debout, nous allons ouvrir ensemble le texte de Luc, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, c'est une longue lecture. Nous allons du verset 35 au 48e verset. Nous pouvons nous mettre debout ensemble. Si vous n'êtes pas malade, vous pouvez rester assis. Luc 12, vous êtes malade, vous pouvez rester assis, mais si vous n'êtes pas malade, vous pouvez vous mettre debout. Luc 12, verset 35. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que vos reins soient sains, et vos lambes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillant. Je vous le dis en vérité, il se sentira, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve vaillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous ?» que tu adresses cette parabole. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Heureux ses serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit à lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec qui ? Avec qui ? Les infidèles. Le serviteur qui ? Et a connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand coup de coup. 48. Mais celui qui ne l'a pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ensemble, nous lisons le texte de Luc, chapitre 12. Vous pouvez commencer la lecture à partir du premier verset et aller jusqu'au 48e verset pour comprendre encore davantage ce que le Seigneur veut nous communiquer. Ce matin, ensemble, nous sommes appelés à explorer et à exploiter ce sujet. Prenez garde. Prenez garde. Alors moi, j'aimerais le traduire littéralement. Littéralement, pour dire, restez à tenir du travail. Vous pouvez dire à votre voisin, restez à tenir du travail. Restez à tenir du travail. Vous pouvez encore répéter à votre voisin. Alors donc, c'est de cette manière que j'essaie de traduire littéralement, n'est-ce pas, ce thème, prenez garde, restez à tenir du travail dans l'attente du Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du travail. Lorsque nous parlons du travail, nous retenons une chose. Tout et chacun de nous est appelé à travailler. C'est un devoir de tout et chacun. Rester dans une chambre de prière, dire « je fais la permanence ». Vous avez entendu ce genre d'expression. Je fais la permanence à l'église. Vous allez rencontrer certaines personnes parfois, il faut la permanence à l'église parce qu'il n'a pas de famille d'accueil. Et si je fais la permanence à l'église. Et certaines personnes parfois, ils sont devenus une charge pour l'église. J'ai rencontré un collègue pasteur qui me disait, nous avons logé déjà au temple. Un certain jour, nous les avons croisés, nous avons trouvé qu'ils ont emporté tous les instruments musicaux. N'est-ce pas? C'est un acte de charité. Mais à cause de l'oisiveté, certaines personnes décident, n'est-ce pas, de rester à l'église. Là, ils prennent du thé. Ils participent aussi aux séances de prière. Ça, c'est un défi. Et certains pasteurs font face à ce genre de défi. Mais retenez que le travail est très important. Le travail, n'est-ce pas, nous aide, n'est-ce pas, à participer au progrès de la société. Le travail que vous réalisez, ça peut être un travail manuel. Ça peut être un travail intellectuel. Certains peuvent s'enfermer parce qu'ils sont en train de concevoir. J'avais un ami, quelque part, il était en train de faire ses recherches en matière d'intelligence artificielle. Alors, il me parlait des choses que moi, je ne pouvais pas comprendre facilement. Il dit, je suis en train d'initier un logiciel, et voilà, il me faut créer l'algorithme. Et parfois, je voudrais donner ma contribution à l'avancement de la science. Et il a essayé de rabaisser les discours disant, c'est comme des oiseaux que tu es en train de voir les oiseaux qui sont en train de s'envoler. Je crois que ceux qui ont vécu dans les villages peuvent voir des oiseaux qui peuvent quitter d'une colline et aller dans une autre colline. Peut-être ce sont des oiseaux qui sont à la recherche, n'est-ce pas, peut-être des grains à picorer. Alors lui, il veut que ce qu'il est en train de fabriquer se présente comme des oiseaux. Mais en arrivant sur une colline, les oiseaux vont s'accrocher sur un seul arbre. S'ils sont à 500, s'accrochent sur un seul arbre. Alors il dit, je suis en train d'y arriver, mais les autres qui m'ont précédé, avec le système qu'ils ont utilisé, ça prend 40 secondes. Moi, j'aimerais que j'aboutisse à 20 secondes. Alors, ça me casse les nerfs parce que je ne suis pas parvenu à retrouver ce que je cherche. Ça lui fait une semaine, la tête lui fait du mal. Ça, c'est un travail qu'il est en train de faire. Les gens ont fait du travail, n'est-ce pas, quand ils ont essayé d'initier ou de fabriquer l'ordinateur. Certains qui ont de grandes concessions, qui peuvent aller au champ, qui peuvent aller couper des arbres, ils comprennent que la richesse peut-être c'est dans les champs, mais d'autres pensent que je peux utiliser ma tête, mon cerveau et créer un appareil qui sera, n'est-ce pas, utile non seulement pour moi-même, mais pour la société. Et aujourd'hui, vous et moi, nous utilisons l'ordinateur, le téléphone. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé. Et il y a certaines personnes, parfois, avec l'ordinateur, lui, c'est déjà son champ. Nous, ici, nous avons des vastes concessions, mais d'autres, ils ne restent qu'avec des cerveaux. Ils ne restent qu'avec des ordinateurs. Et les pays désordonnés disent, non, c'est chez vous, nous allons investir notre argent, comme la Suisse. Ils utilisent seulement les cerveaux et ils contribuent, n'est-ce pas, à l'avancement, n'est-ce pas, de la société. Il y a des rabbins qui ont réfléchi sur le travail. Les rabbins ont estimé que le travail fait oublier le péché. Tu veux parler à ton voisin, tu lui dis, le travail fait oublier le péché. Faites attention avec des gens qui ne passent des journées au bord de la route en train de compter les véhicules qui passent. Ça, c'est le véhicule de Vanille, ça, c'est le véhicule de... Et ils connaissent même les chiffres bancaires de certaines personnalités dans la ville de Goma. Il faut faire attention avec ces gens. Ils sont très dangereux. Il faut faire attention avec des gens qui parlent beaucoup. J'étais avec une femme de pasteur quelque part. Elle m'a dit, avant que nous ne recevions la lettre d'invitation, les fidèles de l'église le savaient déjà. Alors nous, on était là, on ne savait pas. Mais elle le savait déjà d'avance. Vous ne trouvez pas que ça, c'est une maladie. Il y en a certaines personnes qui ne... Parce que l'air est en train de dire, bon, tel pasteur sera mité où? Alors, il creuse. Il faut faire attention avec ce genre de personnes. Mais le travail fait oublier les péchés. Quand tu es trop occupé, tu n'as pas le temps de participer au commérage. Si tu es vraiment focalisé, j'ai vu cela à la faculté. Je crois qu'Abomondo, il a observé cela. En tout cas, tu passes beaucoup de temps à la faculté. Les autres sont sous l'arbre en train de causer, même dans la langue maternelle. Ils sont à la faculté. Il faut faire attention avec ce genre de personnes. Le travail fait oublier le péché. Mais c'est aussi un moyen qui nous aide à répondre à nos besoins. Ça nous aide, n'est-ce pas, à répondre aux besoins familiaux. Quelqu'un peut... Nous pouvons lire ensemble le texte de Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Je vais lire le verset 19 de Deutéronome, chapitre 30. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et quoi? Je reprends. Nous sommes à Deutéronome 30, 19. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et quoi? J'ai mis devant toi quoi? La bénédiction est quoi? Choisis la vie afin que toi et qui? Nous pouvons reprendre la lecture. Assemblée, j'apprends, assemblée, lisons. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Quand tu travailles, tu seras une source de bénédiction, non seulement pour ta famille, mais aussi pour la société. Beaucoup de pays africains souffrent parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Mais c'est important que nous puissions entraîner nos enfants au travail. Je donne aussi un exemple. Ceux qui sont, par exemple, dans le domaine des sciences, ceux qui font la mathématique. Nous avons, n'est-ce pas, des bons mathématiciens ici dans la région, n'est-ce pas? Ailleurs, pour trouver un prof de mathématiques à l'université, ça peut prendre plus d'une année, hein? Mathématiques, donc les sciences pures, ce sont des domaines où nous n'avons pas de cadre. Mais on voit des mathématiciens qui meurent ici dans nos petits villages, très forts en mathématiques. Il suffit de prendre ces garçons, tu l'amènes à Oxford. Il commence, n'est-ce pas, à approfondir sa connaissance en mathématiques. Dans certaines universités, on ne paye pas moins de 2 millions de dollars par mois pour un mathématicien. Ça vous dit quelque chose? Mukubwa, si on donne 2 millions par mois, Mukubwa, est-ce que tu vas avier le poste de député? 2 millions par mois. Mais ce sont, n'est-ce pas, des ressources qu'on ne trouve pas facilement. Et pourtant, nous avons des enfants très intelligents dans notre région. À cause de la corruption, nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à entraîner nos enfants au travail. Une personne, en elle seule, elle peut se dire, non, je suis à l'aise de recevoir 21 000 dollars par mois. Et il est à l'aise, hein? La corruption dans notre région. Et il y a certaines personnes parfois qui sont au Parlement. C'est quand on dit qu'ils sont pour, qu'ils se réveillent. Nous avons besoin de travailler. Et là, nous allons participer au développement de la société. L'oisiveté, c'est, on pourrait dire que c'est un virus à combattre. L'oisiveté, c'est un virus à combattre. Alors, nous sommes en train de lire le texte de Luc. Et quand nous lisons le livre de Luc, nous comprenons que c'est un savant qui a écrit ce livre. C'est un livre écrit par un médecin. Et comme vous le savez, il a écrit ce livre à deux tomes. Le livre de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, il essaie de raconter, n'est-ce pas, l'histoire des œuvres des apôtres après, n'est-ce pas, la mission de Jésus sur la terre. Mais dans le livre de Luc, l'auteur nous parle des événements, n'est-ce pas, relatifs au salut. Et ces événements se sont réalisés en Jérusalem, où l'histoire d'Isali a été conclue. Mais cela n'empêche, il peut citer certains textes de l'Ancien Testament. Il peut parler de l'histoire de Jésus, comment il a opéré des prodiges, des miracles, les enseignements qu'il a donnés à parabole, les interventions, n'est-ce pas, de Jésus. Mais Luc a une attention particulière pour les petits. Il a une attention particulière pour les malheureux. Et nous les trouvons souvent à Luc chapitre 4. Vous pouvez même lire à la maison le verset 17, le verset 18, le verset 19, où la parole de Dieu nous montre que Jésus se présente, n'est-ce pas, comme loué de Dieu. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à qui ?» La bonne nouvelle à qui, s'il vous plaît? Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Luc a une attention particulière envers le pauvre et les petits. Alors, revenant à ce texte que nous avons lu, l'auteur dit ce qui suit. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous tous que tu adresses cette parabole ?» Mais le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture en temps convenable ?» Jésus utilise encore une image et il parle de l'économe. L'économe, dans ce texte, c'est « oikonomos ». Ça, c'est par rapport, n'est-ce pas, à cette image qu'il a évoquée. Et oikonomos fait allusion, n'est-ce pas, à la maison. Et cet économe, il réalise son travail à la maison, mais il est un économe qui est fidèle et qui se met au service du peuple pour leur donner, n'est-ce pas, à manger pour leur donner à boire. On pouvait se représenter qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une ménagère. Mais le rôle de cet économe fidèle, c'est de prendre soin, n'est-ce pas, des ressources qui soient à sa disposition. C'est comme par exemple Joseph en Égypte. Il a été économe et à cause de sa présence en Égypte, il est arrivé à nourrir toute une nation. Et il a su, n'est-ce pas, comment utiliser les ressources qui étaient à sa disposition. Pendant, n'est-ce pas, la vache grasse, il faut, n'est-ce pas, collecter les produits des champs. Il faut les stocker quelque part et il faut répondre aux besoins du peuple lorsque ce peuple est affamé. Il s'est organisé, c'est ça l'économe. Alors donc, quand vous avez cette image, vous allez comprendre que toute personne qui joue un rôle, n'est-ce pas, pour voler au secours des autres, c'est un économe. Et cet économe, dans ce texte, nous apprenons que c'est un économe fidèle, un économe prudent, un économe sage. Ce n'est pas un économe qui peut faire le gaspillage. Parfois, nous tombons dans cette erreur de gaspillage quand nous organisons des cérémonies dans notre région. Nous avons béni un mariage d'une Britannique ici à Goma. C'était une Britannique qui avait des maisons, qui avait beaucoup d'argent. Mais vous savez combien de personnes cette Britannique avait évité le jour de la célébration de son mariage? C'était 150 personnes. 150 personnes, ça vous dit quelque chose? 150 personnes. Lorsque nous organisons des cérémonies, combien de personnes nous évitons? 400, 500. Oui, il parle de 1000. Hein? Quelque part, j'ai rencontré quelqu'un qui a même évité plus de 1500. Et quand vous regardez les budgets, ce n'est pas un budget de moins de 10 000 $. Hein? Peut-être il va même au-delà de 15 000 $. Ça vous dit quelque chose? Le gaspillage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas éviter les gens quand même. Mais je me dis quand même à côté de déplacer au niveau de Kanyarochinya, de Boulengo, n'est-ce pas? Et après une heure de temps, nous consommons comme ça 50 000 $. Je crois que c'est du gaspillage. Et nous sommes spécialistes à gaspillage, nous les Africains. Mais en Europe, vous allez trouver des vieilles mamans, peut-être elles sont à 12, à 14 ou à 15 dans les temples. Elles disent non, il y a des Africains qui souffrent. Et peut-être ce sont des vieilles mamans qui se disent non, l'argent que nous allons réunir, nous allons envoyer en Afrique pour aider les gens. Et lorsque nous soumettons nos projets, on vous dit, vous avez reçu par exemple de Paix pour le Monde ou de l'Allemagne, 3 000 $. Et il y en a d'autres, quand ils voient 3 000 $, ils perdent la tête. Il pense que c'est l'argent de son père. Et il commence à distribuer cet argent. Et vous trouvez une personne qui est chassée de son service parce qu'il a mal géré les dons reçus, n'est-ce pas, de l'étranger. Et ce n'est même pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, 3 000 $, ce n'est pas beaucoup. Je crois qu'il faut encore enseigner, n'est-ce pas, nos gens. Au Kenya, j'étais là dans une petite église qui se disait qu'elle commence à envoyer des missionnaires en Europe. Envoyer les missionnaires en Europe et les missionnaires, n'est-ce pas, est compte de cette église du Kenya. C'est cette église qui doit payer le salaire, les logements, les frais de scolarité des enfants au Kenya. J'ai appris qu'ici aussi, à Goma, il y a certaines églises qui commencent à envoyer des missionnaires en Occident, en Europe, en Asie. Ça nous dit quelque chose, hein? Ça nous dit quelque chose. Je crois que c'est important de commencer à abandonner cet esprit d'attentisme. Cet esprit d'attentisme, c'est un esprit développé par les paresseux. Il faut combattre ça, la paresse. Parce que c'est seulement le blanc qui ne peut nous donner des bonbons. Vraiment. Des enfants, quand ils voient un blanc, ils disent « Mzungu bonbon ». Ça, sont les enfants. Mais nous, comment nous nous comportons lorsque nous voyons, n'est-ce pas, un occidental? Il y en a d'autres qui n'arrivent même pas à participer à des sessions de formation quand ils voient que c'est la peau noire qui va organiser la session. Il faut voir un blanc. Et ça, c'est, ça nous habite. Ça, c'est un esprit, n'est-ce pas, à combattre. Mais ici, dans ce texte, on nous parle de l'économe fidèle. Il est sensible, il est prudent, il est sage, il évite les vols et les gaspillages. Le deuxième point, c'est par rapport au mauvais serviteur. Le mauvais serviteur, c'est celui qui abuse de son pouvoir. Le mauvais serviteur, il est criminel. Quand j'utilise ce terme, hein, parfois ça me fait mal dans mon cœur puisque j'ai constaté que le monde est beaucoup plus dirigé par des criminels. On n'arrête pas les criminels qui sont traduits à la haie. Qui sont en train, n'est-ce pas, d'être victimes des mesures des grandes puissances. Nous allons geler les comptes de tels. Vous avez suivi pendant les 2 semaines. Il semble qu'il y ait un monsieur là qui est dans un mouvement à qui on a gelé ses comptes. Et quand vous regardez la personne qu'on a choisie, qu'est-ce que ça fait avec la rébellion qui est en train d'endeuiller des gens Qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a un collègue pasteur qui me disait, il est à Suisse et me disait, tu sais que chez nous ici, le peuple a commencé à penser à une pétition. Qu'on commence, n'est-ce pas, qu'on arrive à arrêter tous ceux-là qui soutiennent, n'est-ce pas, les groupes armés et qui accumulent de l'argent à partir des ressources minières. Ils ont fait la pétition et le peuple a fait ça. Mais il y a un groupuscule de gens qui se sont dit non, non, on doit faire. Certains politiciens parlent de blocs, on va faire un bloc. Et ils ont construit un bloc. Et ils ont réussi, n'est-ce pas, à bloquer et à empêcher, n'est-ce pas, ce processus. Et parfois, ceux qui vont à la haine, ce sont des Africains, des pauvres Congolais qui vous passent 10 ans là-bas. Il y en a d'autres qui passent même 10 ans alors qu'ils n'ont même pas fait de mal. Je ne vais pas citer leur nom. Ce monde est dirigé par des mauvais serviteurs. C'est des criminels qui dirigent ce monde. Et si nous ne comprenons pas cela, je crois que ça nous prendra du temps pour commencer à penser à la restauration de notre société. Mauvais serviteur, il abuse de son pouvoir. Lorsque on te nomme comme chef de promotion d'un auditoire, comment tu te comportes? Chef de la chorale. Et j'ai vu dans notre région, les gens aiment beaucoup de titres. Donc quand on veut te rassurer, on dit président. Chacun est président, vraiment. Et ça commence à nous habiter. Tu te sens mal à l'aise lorsque tu appelles, n'est-ce pas, une personne qui a une position, personne, abusée de son pouvoir. Et il y en a qui abusent de leur pouvoir, ils utilisent son pouvoir pour bloquer les autres. Parce qu'il est là, toi, tu ne peux plus avancer. J'avais un enseignant qui disait, nous allons vous aider à couler. Toi, un enseignant vraiment, tu vas faciliter à ce que les étudiants ne puissent pas réussir. Et ça, c'est une mentalité à combattre. Mauvais serviteur. Le troisième point, c'est par rapport à ces serviteurs négligents, mais qui connaissent très bien la volonté de son maître. Ces serviteurs négligents, ils ne veulent pas agir tout en connaissant la volonté de son maître. Il sait que son maître est à route, tel que nous avons lu cette image. Il va arriver bientôt, mais ses serviteurs n'aimaient pas ses habits. Ils ne restent pas à tenue de travail. Ils négligent. Et le dernier serviteur, c'est le serviteur ignorant. Le serviteur ignorant, c'est celui qui ne connaît pas la volonté de son maître, qui ne connaît pas la volonté de son seigneur. Nous sommes en train de célébrer dans quelques jours la nativité de notre Seigneur Jésus. Et lorsque nous lisons le texte de Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9, vraiment, les prophètes nous parlent de la venue du Messie. Et quand nous lisons ce texte, nous comprenons que le Messie qui arrive, c'est un Messie qui apporte la lumière. La lumière pour un peuple qui croupit dans les ténèbres. Et quand nous lisons ce texte, le marié avec celui de 2 Rois, chapitre 16, nous comprenons que c'était une prophétie déclarée à une période de la crise. Il y avait les Syriens qui ont comploté avec les Israélites. Et les deux peuples ont décidé de faire la guerre contre les Juifs. Dans cette situation, le roi Akaz, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a eu une idée, il s'est dit, non, non, je peux recourir à un autre roi, un puissant qui s'appelle Tiglath-Pelazar, le roi d'Assyrie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui, il a amené des présents, de l'or et d'autres ressources pour que Tiglath-Pelazar puisse voler à son secours pendant la guerre. Et vous savez ce qui est arrivé? Le secours de Tiglath-Pelazar, tellement qu'il était très puissant, ce secours a neutralisé les deux petits pays, la Syrie et Israël. Mais comme conséquence, Akaz a été obligé de suivre le rythme cultuel de Tiglath-Pelazar. L'idolâtrie s'est installée à Juda. L'idolâtrie s'est installée à Juda. Nous vivons dans une période où nous sommes assiégés. Assiégés par des petits pays, peut-être aussi des grands pays. Et il y a ce danger, n'est-ce pas, de faire recours à Tiglath-Pelazar. Et lorsque Tiglath-Pelazar sera là, il risquera de nous entraîner dans une coutume qui soit en dehors de la volonté du Seigneur. Parce que nous avons demandé leur soutien, alors ils vont nous exiger A, B, C, D. Je ne vais pas entrer en détail dans cet aspect, mais au moins, vous pouvez comprendre que nous vivons dans une obscurité. Et c'est une obscurité qui nécessite une visitation, la présence du Messie. Le Messie qui vient éclairer, ouvrir les yeux pour que nous puissions accéder, n'est-ce pas, à la lumière. Pour clôturer, Notons que le Messie qui vient, c'est le serviteur fidèle.
Alléluia.
C'est un conseiller. Il prodigue des conseils. Il y en a certaines personnes, s'il connaît un trick, il ne peut pas vous informer. C'est son trick à lui. Mais le Messie qui vient, c'est un conseiller. Tu peux ne pas donner à quelqu'un de l'argent, mais tu peux lui donner juste une parole. Une parole d'encouragement. Et ce n'est pas pour dire que ce ne sont que les riches qui doivent, n'est-ce pas, aider les pauvres. Tu peux être pauvre, n'est-ce pas, matériellement, mais tu es riche. Spirituellement, mais aussi au niveau de ton mental. Et tu es à même de sauver une personne, n'est-ce pas, qui croupisse dans les ténèbres. Il y a des Kinois qui ont l'habitude de dire, il faut soigner les relations. Vous avez entendu une expression comme celle-là. Soigner les relations. Puisqu'on ne sait jamais. Tu ne sais pas quand le Messie va te visiter. Il ne faut pas regarder, n'est-ce pas, la taille de la personne, les avoirs de la personne. Quand j'ai préparé cette méditation, j'ai réfléchi sur un individu, c'est un ami avec qui j'ai travaillé. J'étais administrateur et lui était magasinier. Donc, j'étais son chef. Mais je vous dis à l'heure où je vous parle, je n'ai même pas les 1/10 de ce qu'il a. Il est devenu millionnaire. Le Messie peut visiter n'importe qui, même la personne que tu négliges. Au temps convenable. Mais c'est important aussi de bien soigner les relations, restaurer la paix, puisque c'est le prince de la paix qui arrive. Le deuxième élément, c'est que c'est important de combattre l'oisiveté, réfléchir comment on peut intégrer nos jeunes dans des institutions, mais aussi comment on peut exploiter l'aspect diplomatie pour que nos jeunes ne puissent pas mourir ici, mais qu'ils aient des débouchés, des sorties. Nous pouvons envoyer avec nos relations des jeunes de Gomaville en Europe, c'est possible. Nous pouvons les envoyer aux États-Unis, c'est possible. C'est question seulement de croire. Diego, je ne sais pas ce que tu crois. Tu crois que nous pouvons envoyer des jeunes d'ici en Europe? Il y a un ami, quand la pauvreté était en train de l'éronger, il a dit non, je dois quand même changer ma perspective, ma façon de voir les choses. Il a pris un billet de $100. Il a photocopié le billet de $100. Et il a placé cette photocopie sur sa table de travail. Et il a mis l'autre photocopie sur le toit, là où il dort. Et il avait une autre copie dans sa poche. Quand il a pris le billet, il a dit, « Toi, pourquoi tu as l'habitude de me fuir, toi ? Pourquoi tu as l'habitude de me fuir ?» Là, il parle à quoi ? À ce billet de $100. « Désormais, je veux que tu sois dans ma poche. » Alors, les jours sont passés. À un moment donné, il s'est retrouvé, il ne manquait pas un billet de $100 dans sa poche. Il a acheté une parcelle, il a bâti une maison. C'est mon ami. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est mon ami. Et vous pouvez vous étonner, n'est-ce pas? Parce que vous pensez que l'homme, c'est seulement la chair. C'est ce que vous pensez. Ça, c'est un autre enseignement, c'est un autre jour. Mais je vais seulement vous lire un verset de la Bible qui dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Je reprends le verset. Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Ça, c'est un enseignement qu'on peut exploiter un autre jour. Les psychologues disent que l'homme, la chair, c'est 30% de l'homme. 30%. Les 70%, c'est spirituel. Et chacun a un corps de secret à lui que Dieu a placé dans son cœur, dans sa vie. Je ne peux pas seulement parler du cœur ou de la chair. Je ne sais pas où Dieu a placé ça. Si tu exploites ce corps de secret, ça va te propulser. Tu iras plus loin. Tu vas t'étonner, tu dis, hé! La parole nous dit que, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Oui, nous sommes des dieux, des petits dieux. Nous pouvons parler et la parole peut créer. Bon, suffit, oui. Je sais que j'ai débordé, mais je peux encore donner quelques illustrations. En fait, dans ce domaine-là, vous pouvez trouver des dimensions diplomatiques, des dimensions spirituelles, des dimensions économiques, des dimensions médicales aussi. Un psychologue m'a dit il y a quelques jours, dit que vous savez que les ADN des humains, des chimpanzés, se ressemblent à 98%. Mokobo, je pense que tu sais ça puisque tu enseignes. ADN des chimpanzés et de l'homme, 98%. Mais les hommes se ressemblent avec leurs ADN, c'est à 99,9. Ça, ce sont les humains. Mais la seule différence qui me distingue de Mokobo avec l'ADN est de 0,9%. 1%. Et si tu arrives à stimuler le 0,1%, on va commencer à parler de toi. Vous avez entendu des jeunes garçons de Biréré, Innocent, comment vous l'appelez? Innocent qui? Nous étions avec lui à l'hôpital. Mais à un moment donné, j'ai appris qu'il était devenu fameux au point qu'il commençait à obtenir des visas des États-Unis sans difficulté. Il a stimulé son 0,1%. Et il y en a qui meurent sans stimuler même le 0,1%. Et qui parfois amènent leur code secret dans la prostitution. Ils couchent avec des femmes
Quand tu fais ça,
tu donnes déjà ton code secret à une prostituée.
La fornication,
c'est une voie, n'est-ce pas, qui pille les codes secrets. Ça, c'est un autre enseignement qu'on peut donner un autre jour. Vous êtes des dieux. Ne savez-vous pas? Ça, c'est le psaume 82, verset 6. Vous allez lire ça. Je ne voudrais pas mourir sans stimuler mon 0,1. Et certains chercheurs disent que rares sont ceux qui arrivent, n'est-ce pas, à exploiter les 10% de 0,1. Si tu es dans un village comme chez moi, à Nyamitutu, tu gardes seulement les chèvres. Tu vas me dire que Dieu t'a amené dans ce monde pour que tu sois le gardien des chèvres, le gardien des vaches. Et c'est tout vraiment? Vous pensez que c'est ça? Gardien de la porte. Je suis agent de la sécurité. Et c'est tout? Et tu meurs comme ça? C'est pour ça que Dieu t'a amené ici? Sur la terre, je suis comptable. Toute ta vie, comptable. Je suis en train de vous révolter. Et l'autre dit, non, non, il faut que je décroche les 21 000 $ par mois. Vous pensez que Dieu t'a créé pour ça seulement? Seulement 21 000 $? Parce que si tu calcules les 21 000 $ fois 12, tu auras combien? Tu auras autour de 100 000 quelque chose, n'est-ce pas? Ou bien 200 000 quelque chose. Et pour les 5 ans, tu as peut-être moins de 2 millions de $. Et pour ça, tu te casses ta vie, tu exposes même ta mère, tes parents. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Tu peux faire plus que ça. Tu peux être millionnaire, milliardaire. C'est possible. Si une fois, Dieu te facilite à stimuler ton 0,1. N'avez-vous pas vu des gens qui n'ont même pas de certificat d'école primaire, qui engagent même des licenciés? Des millionnaires, des milliardaires dans notre région. Tu peux aussi stimuler ton 0,1. Vous êtes des dieux. Combattez l'oisiveté. Et le dernier élément, il faut combattre ce qu'on appelle le snobisme. Snobisme, l'admiration pour ce qui est à vogue. Un habit arrive, c'est toi qui sautes dessus. Un soulier arrive, c'est toi qui sautes dessus. Téléphone, oui, oui. C'est toi qui sautes dessus. Les amis, le snobisme, ça nous visite souvent même dans notre église. Hein? Alors, c'est important de prendre garde. Tu peux encore dire à ton frère, à ton voisin, restez à tenue de travail. Parlez à votre frère. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.